Préparez vos valises. Thierry Georges vous propose une nouvelle escale sonore dans Suivez le guide.
And the safety of your fellow passengers, please remain seated until the mountain seatbelt sign has been switched on. The aircraft has come to a complete stop. We can remind you now where you are located, but we might not have much to do. The event is kind of in the entire group. Thank you very much for flying with us. Hope to see you again soon.
欢迎来到香港。Welcome to Hong Kong. Bienvenue at Hong Kong.
Avec 7,4 millions d'habitants sur 1100 km², Hong Kong est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. Hong Kong, au sud-est de la Chine, a été fondée en tant que colonie de l'Empire britannique après que la dynastie Qing a cédé l'île en 1841-42 à la suite de la défaite de la première guerre de l'opium. Hong Kong fut occupé par le Japon de 1941-45 pendant la Seconde Guerre mondiale et cédé par le Royaume-Uni à la Chine en 1997.Hong Kong maintient toutefois des systèmes de gouvernance et économiques distincts de ceux de la Chine continentale en vertu du principe d'un pays, deux systèmes. Dans ce deuxième Suivez le guide à Hong Kong, nous passerons par la terrasse de l'hôtel Four Seasons avec Jacques Boissier qui importa des produits d'alimentation français haut de gamme. Et vous êtes invité à la découverte d'un palace historique de l'île de Hong Kong, l'hôtel Mandarin Oriental, avec son chef sommelier, le Charentais Hubert Chabot.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
Nous sommes montés, Jacques, dans un taxi, et j'étais surpris, la porte s'est ouverte toute seule.
Tous les taxis, les portes arrière-gauche, donc côté trottoir, sont commandées à partir du... commande avec une... c'est du mécanique, hein.
Ah oui, c'est pas, il n'appuie pas sur un bouton.
Il y a un petit levier, non, à côté de lui, et il y a une tringle qui va ouvrir la porte et la refermer derrière.
Ça, c'est étonnant, le taxi, bah, le taxi n'était même pas encore arrêté, que la porte
enfin,
était déjà ouverte.
Oui. Non, c'est très pratique.
Et puis, on a un chauffeur assez speed, là. Hein, traite pas,
hein. Ils sont généralement assez speed, et puis il a des téléphones devant lui.
Des caméras.
Il suit tout, il a deux caméras sur l'avant, il en a, enfin, une sur l'avant, une sur l'arrière.Il suit tout ça de près. Il a la radio en place. Il peut avoir son téléphone qui sonne. Et il a en plus la radio pour communiquer avec ses collègues. Et réservation. Donc, c'est un environnement de bureau, là.
Ah ouais, non, vraiment. Les caméras, c'est en cas de problème. Si jamais il y a un conflit à résoudre.
Bon, ça te fait de plus en plus ici. Presque toutes les voitures en Hong Kong sont équipées de caméras. Il n'y a pas de... Comment on appelle ça de constat à l'amiable à Hong Kong. Si on a un accident, on appelle la police. C'est la police qui fait le constat. Donc il y a des embouteillages qui peuvent être créés à certains moments à cause des voitures qui ont un petit accrochage et qui vont attendre. Et ils utilisent, les gens utilisent les caméras qu'ils ont dans les voitures qui enregistrent pour montrer à la police ce qui s'est passé.5 minutes de l'endroit où on était, très traditionnel, dans le coin le plus moderne, à ici, un des plus beaux shopping malls de Hong Kong, la gare du métro qui emmène à l'aéroport.
Avec le train rapide.
Oui. Et puis bah, le stock exchange, donc la bourse de Hong Kong. Est au...
Encore une bête clé, là. Il y en a beaucoup. Hein. Mazel tov. On peut personnaliser sa plaque. Hein.
On peut acheter une plaque.
On peut acheter, hein.
On peut acheter une plaque et donc la personnaliser, ça peut coûter très très cher.Suivant la plaque. Et puis il y en a qui sont mises aux enchères par le gouvernement. Tous les trois mois, il y a des mises aux enchères de plaques qui sont des numéros un peu spéciaux, porte-bonheur. Ah, donc les numéros,
c'est un double 07 par exemple.
Oui. Où les 8 sont très populaires dans
les quoi numéros.
Les 8.
Ah, les 8.
Le 8 est un chiffre porte-bonheur. Donc on essaye d'avoir un numéro de téléphone qui contient des 8 et puis des plaques d'immatriculation qui contiennent du 8. 86, 88.
Ah oui.
Donc elle a dû lui.
Donc c'est pas un Vosgien, c'est pas, il est pas Vosgien, c'est pas pour ça. Hein, mais donc si on a une plaque avec des 8, on n'a jamais d'accident.
Alors je pense qu'on s'en sort mieux parce qu'on a plus d'argent.
Et toi tu as une voiture ?
Oui, j'ai une voiture électrique. Parce que Hong Kong est une ville faite pour les voitures électriques et il y a de plus en plus de voitures électriques. Je crois que c'est une des plus fortes concentrations au monde de voitures électriques.
Les Tesla sont communes ici. Hein.
Tesla, c'est leur plus gros marché, c'est la plus grosse part de marché au monde par nombre de voitures.
Oui, proportionnellement.
Proportionnellement. Oui. Et on commence à trouver les voitures électriques chinoises également, évidemment.
Mais sinon, tu te déplaces dans Hong Kong plutôt
Plutôt en transport en commun, ouais, métro.
Sinon, c'est se compliquer quand même la vie.
Métro, bus, ouais. Etc. La voiture sert pour aller dans le sud de l'île plus ou sur le continent.
Oui, c'est ça. Mais tu te lances dans des voyages en voiture en Chine ?
Non. Pour aller en Chine, il faut une plaque spéciale d'immatriculation.
Ah, on ne peut pas passer en Chine comme ça.
On ne peut pas aller en Chine, ni à Macao. On est limité à Hong Kong. Ce qui explique pourquoi on voit certaines voitures avec deux plaques. Ils vont avoir la plaque hongkongaise et la plaque chinoise. Et il y en a certains, ça fait très chic, qui ont trois plaques. La plaque hongkongaise, la plaque chinoise et la plaque macanaise.
Ouais, pour Macao. Et donc même si on a une énorme Bentley, on ne peut pas faire beaucoup de kilomètres finalement.
Non, et les voitures de sport ne peuvent pas aller très vite. La vitesse maximale, c'est 110 km/h.
Il y a peut-être des circuits.
Alors il faut aller à Zhuhai en Chine, sur le circuit automobile. Ouais. Il n'y en a pas en cours.
Bon, Jacques, tu es chez toi ici.
Dans les hôtels, je connais assez bien les gens et j'ai toujours eu un grand respect pour tout ce qui était petit personnel dans les restaurants et dans les hôtels. Donc, généralement, ils montent en grade et ils gardent cette relation.
Quand ils sont directeurs de l'hôtel.
C'est presque ça, mais l'accueil est plus agréable quand on s'occupe des gens. On leur sourit quand on arrive, on leur dit bonjour, plutôt que les traiter de haut.
Bah oui,
ils s'en souviennent.
C'est juste de la politesse aussi. Hein. Ouais.
Ils s'en souviennent. Ils sont. Les gens n'ont pas l'habitude.
Donc, le Four Seasons, tu es chez toi.
Le Four Seasons, c'est un des hôtels les plus luxueux de Hong Kong, qui est en bord d'eau. Donc, on va monter sur la terrasse avec une des plus belles vues de Hong Kong, et qui est en même temps la terrasse de la piscine.
Ouais, il faut quand même monter à Victoria Peak quand on vient à Hong Kong.
Alors il faut absolument monter à Victoria Peak et surtout faire le tour de Victoria Peak. C'est une balade qui dure 45 minutes, une heure, et qui permet de comprendre comment est organisée l'île de Hong Kong. La partie ville est toute petite et sur le bord, sur le littoral. À l'intérieur, c'est de la montagne et de la verdure. Donc on peut aller faire des treks très longs, enfin de plusieurs heures sans croiser personne dans la nature, voyant des animaux.
On peut avoir une vie sportive, hein, vraiment. Alors bon, en plus il y a les salles de sport, mais sinon, mais une vie sportive nature à Hong Kong.
Alors il y a le trek, le vélo, la voile, le bateau. On peut faire à peu près tout ce que l'on veut à Hong Kong. Et c'est très facile d'accès parce que c'est petit Hong Kong. Voilà, on est au cœur des centres d'affaires. Et on est à 10 minutes d'une marche dans la nature.
Il est assez courant que ceux qui arrivent à Hong Kong pour la première fois aient un véritable coup de foudre. Ouais. Toi, dirais-tu que c'était ton cas, Jacques, quand tu es arrivé à Hong Kong pour la première fois, était-ce un coup de foudre ?
Alors moi, c'était un coup de foudre. Alors, je connaissais déjà Hong Kong, puisque j'étais venu, mes parents m'avaient amené en 1964 à Hong Kong pour la première fois. Donc, c'était pas connu, mais j'avais envie de vivre ici, c'était clair. C'est un endroit magique qui est plein d'énergie.
Et avec une belle piscine ici, au Four Seasons. Hein. Il y a du monde à la piscine.
qui, avec une vue sur toute la baie de Hong Kong, ce qu'on appelle Kowloon et l'île.
Et alors là, mi-novembre, on va vers l'hiver, mais aujourd'hui c'est un peu venteux, mais la température très douce, et c'est vraiment une journée pour aller à la piscine.
Vingtaine de degrés, c'est parfait pour la piscine. Je vais te laisser y aller, moi je vais prendre un café.
Nous sommes en terrasse, la terrasse du Four Seasons. Bon, c'est un endroit vraiment merveilleux. Vaste piscine.
L'immeuble est très élevé. On est sur une terrasse intermédiaire et on a une vue sur la baie, donc Kowloon, tous les immeubles du Kowloon avec le soleil en face. Et on voit toute la courbe, les immeubles du côté sur l'île de Hong Kong. Le passage d'eau au milieu avec tous les bateaux qui passent en permanence. Les Star Ferry qui passent de Kowloon à ici. Le ponton île de Hong Kong est juste à côté. Donc c'est assez magique.
Ouais. Alors les voiliers aussi, c'est le week-end, c'est peut-être le moment de sortir le bateau et de faire de la voile. Toi, tu as un bateau? Tu as eu un bateau?
Non, j'ai pas de bateau. On dit toujours, il y a trois choses qu'il faut pas avoir. On est content quand on les achète, et surtout on est très content quand on s'en sépare. C'est le bateau, l'avion et la femme.
Bon,
on fera la dernière partie.
On gardera que le bateau et l'avion. Et puis au loin, on peut apercevoir un bateau de croisière. Donc Hong Kong est une étape de croisiéristes.
Toutes les grandes compagnies de croisière qui tournent sur l'Asie, ont des périples Asie ou tour du monde, s'arrêtent toujours à Hong Kong. C'est une des villes magiques où les gens veulent passer. Et ils ont la chance d'être amarrés à un terminal qui était sur l'ancien aéroport, d'où ils ont une vue sur Hong Kong extraordinaire le soir. Donc c'est vraiment magique pour eux. Ils adorent venir ici. Et généralement, ils font une étape de 24 heures, 48 heures.
C'est sûr que ce qui est merveilleux, c'est que quand on est à Kowloon, on vient, on se met hors de l'eau pour regarder la vue sur l'île de Hong Kong. Et quand on est à Hong Kong, on regarde Kowloon, et c'est tout aussi beau. Et le soir, c'est très éclairé. Il y a du mapping aussi sur les gratte-ciels.
Il y a beaucoup d'immeubles qui sont illuminés avec des écrans géants. Toute la façade de l'immeuble est un écran géant. Et le soir, à 8 heures, il y a un spectacle qui coordonne tous les immeubles. On peut l'écouter sur la radio et parfois c'est diffusé sur les terrasses. La musique qui accompagne ce spectacle. Là, tous les immeubles importants de Hong Kong sont illuminés, s'illuminent les uns après les autres. Il y a un spectacle laser en plus qui vient du toit des immeubles. C'est assez extraordinaire, à 8 heures.
Mais tous les soirs?
Tous les soirs.
Et puis il y a la roue, la grande roue.
La grande roue qui ici à Hong Kong...
C'est VI.
Elle est très grande, mais... Elle fait toute petite à Hong Kong parce qu'elle est entourée d'immeubles. L'immeuble ici à côté fait 100 et quelques étages. Donc la grande roue, elle fait toute petite à côté.
C'est une petite roue.
C'est une petite roue à la taille de Hong Kong, très prisée des touristes chinois qui font le tour dessus. Donc ça tourne toute l'après-midi et le soir aussi.
Tu y es déjà monté?
Oui, bien sûr.
Ah oui, quand même.
Oui, oui. Non.
Même si tu n'es pas touriste chinois.
Il faut essayer toutes les attractions quand elles arrivent. Il y a celle-ci, il y a un truc extraordinaire à faire à partir de Tung Chung, qui est à côté de l'aéroport. Il y a un téléphérique qui emmène au cœur de l'île de Lantau, voir le grand Bouddha. Et de là, on a une vue sur l'aéroport, on surplombe l'aéroport une bonne partie. Ça, ce sont des choses qu'il faut absolument faire lorsqu'on vient à Hong Kong.
C'est comme dans la chanson de Beko, Dimanche à Orly, donc on va regarder les avions.
Et c'est un peu ça, on voit les avions décoller en dessous.
Sachant qu'il y a normalement, enfin, en période normale, ça atterrit et ça décolle, hein, non-stop.
En période normale, c'est un décollage toutes les minutes de Hong Kong. Il y a trois pistes maintenant.
Ce qu'on n'a pas dit, tu as choisi une des tables des fumeurs de cigares ici sur cette terrasse du Four Seasons parce que tu es fumeur de cigares.
Il y a beaucoup de fumeurs de cigares à Hong Kong. Les Chinois adorent fumer de cigares, de préférence les Cubains. Donc il y a des clubs privés un peu partout en ville, cachés dans les immeubles, où ils se retrouvent entre copains pour fumer un cigare. Et puis ils se retrouvent aussi sur les terrasses des hôtels. Il y a les belles terrasses comme celle-ci. Il y a six tables qui sont dédiées aux fumeurs. Et à partir de 11 heures, on voit les fumeurs de cigares chinois arriver. Et jusqu'au tard le soir, grand cigare, ils prennent leur temps, ils se relaxent, un petit verre et leur cigare avec les copains.
Yeah.
Laissons Jacques Boissier terminer son cigare, changeons d'hôtel, check-in immédiat au Mandarin Oriental, l'un des palaces historiques sur l'île de Hong Kong, surplombant le port de Victoria.
Follow the guy in Hong Kong Island. Suis le guide sur l'île de Hong Kong.
Je suis Hubert Chabot, donc l'hôtel sommelier du Mandarin Oriental Hong Kong. Nous sommes au 23e étage, au Mandarin Club.
Et vous êtes chez vous ici, Hubert, dans ce Mandarin Oriental, dont vous êtes le chef sommelier. Mais alors, pour l'ensemble des restaurants et des bars de l'hôtel, ça représente un volume de vin, je pense, particulièrement de vin et de champagne particulièrement conséquent.
Ben oui, parce qu'on a 10 points de vente, donc incluant les bars, les restaurants et le service des banquets. Donc ça fait 10 points de vente. Donc effectivement, il y a pas mal de vin à gérer, de champagne. On a une clientèle qui est très internationale, évidemment.
Mais une clientèle hongkongaise aussi, amatrice de vin également. Alors bon, les vins sont produits en Chine aussi aujourd'hui, donc je suppose que vous servez également des vins chinois.
Alors oui. Bien évidemment, une clientèle hongkongaise très raffinée, qui aime la gastronomie et qui aime le vin, évidemment. Et effectivement, les vins chinois sont devenus importants, 100% gérés par les Chinois. Il y a aussi un domaine qui s'appelle Aoyun, qui est une propriété chinoise, mais qui est gérée par la société LVMH, une société française. Le directeur du vignoble est français. Les opérateurs sont chinois et les propriétaires sont chinois.
Voilà, sachant que chez MH, le directeur de MH, Philippe Schaus, est luxembourgeois. Donc je ne sais pas si vous l'avez rencontré, Philippe Schaus.
Pas encore.
Pas encore. Vous êtes sommelier. Quand un sommelier qui travaille en France fait le tour des vignerons français, bien évidemment, ce que vous faites quand vous rentrez en France, je suppose, faites-vous le tour des caves chinoises. Ça se fait ou ça ne se fait pas?
Non, bah alors, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Je me promets de le faire. C'est dans le nord de la Chine, donc... Bon, il faut faire un petit peu d'avion, mais oui, ça, je me prête de le faire.
Alors, nous sommes ici, effectivement, au 23e étage, au club du Mandarin Oriental. Le Mandarin Oriental, c'est l'un des hôtels historiques de Hong Kong. Nous sommes sur l'île de Hong Kong. Alors, si on doit citer les hôtels historiques, et Dieu sait que le paysage hôtelier s'est renouvelé et diversifié, et les palaces, il y en a plein maintenant à Hong Kong et de l'autre côté à Kowloon, sur la péninsule. Mais historiquement, il y a le Peninsula, qui est le palace de la péninsule, et le Mandarin, qui est le palace de l'île de Hong Kong.
Bah c'est ça. Il est né en 1963. Il s'appelait The Mandarin à l'époque. Donc c'était le plus haut building de l'île de Hong Kong.
25 étages.
25 étages à l'époque.
Aujourd'hui, il y en a un de 100 étages qui n'est pas bien loin. Donc, donc depuis, il s'est fait dépasser.
Bah depuis, il s'est fait dépasser, mais c'était le plus grand. Et donc il s'appelait The Mandarin à l'époque, et dans les années 70, il a fusionné avec l'Oriental à Bangkok, devenu le Mandarin Oriental.
Voilà, effectivement, et c'est un groupe aujourd'hui, parce qu'il y avait ce palace de Bangkok beaucoup plus vieux, l'Oriental, qui est un hôtel du 19e siècle, et le Mandarin Hong Kong, et les deux ont fusionné. Et c'était d'abord deux hôtels, et puis ensuite c'est devenu une chaîne qu'on retrouve, enfin un groupe, je ne sais pas comment dit-on, mais Mandarin Oriental qu'on retrouve dans le monde entier. Et qu'on retrouve à Paris. Voilà pour présenter cet établissement. 25 étages, ou 25e étage, les restaurants, dont le Manois, qui est un restaurant de cuisine asiatique, chinoise, hongkongaise, restaurant étoilé, une étoile guide rouge. Il y a 70-71 restaurants étoilés à Hong Kong.
Et ben Manois, c'est notre restaurant chinois signature. Donc lui, il est là depuis 60 ans. Voilà, il a toujours été là, ce Manois. Il a été rénové plusieurs fois, mais il est là, et c'est vraiment dans la ville, ça fait partie des restaurants chinois les plus fréquentés.
Même si on ne loge pas, on peut casser sa tirelire quand même pour venir passer une nuit ici au Mandarin. Alors, on cherche la période où c'est un peu moins cher, mais je pense que ça reste moins cher que le mandarin à Paris, je suppose. Si on ne peut pas en vivre, il faut quand même venir, alors, ou boire un verre, mais en tout cas, prendre un repas à ce restaurant manois, qui est un restaurant historique de Hong Kong, ne serait-ce que, par exemple, pour manger un canard laqué. Mais il y a une cuisine très, très inventive. J'ai vu passer des plats, mais visuellement, mais vraiment magnifiques.
On n'est pas sur un restaurant chinois traditionnel. On s'approche de la cuisine européenne, mais avec une cuisine chinoise. Donc c'est vrai que les plats que vous avez vu voir sont assez particuliers, c'est vrai.
On peut dire un petit mot des attentions en chambre. Moi, j'ai trouvé des vraies curiosités dans les chambres du mandarin ici. Par exemple, je ne sais pas si ça vous a frappé, vous, mais une possibilité de... Parfois, dans un hôtel, on demande quelque chose et donc quand on vous l'apporte, on vient frapper à la porte ou sonner. Peut-être vous réveiller, vous interrompre ce que vous étiez en train de faire. Donc, on peut glisser. Il y a une ouverture à côté de la porte de la chambre. On peut faire passer discrètement comme une espèce de passe-plat. Enfin, je ne sais pas, passer discrètement ce que vous avez commandé et on vous le dépose en chambre sans... frapper, sans sonner.
Il faut garder la privacy, ce qu'on appelle donc, en anglais. Oui. Donc, effectivement, on peut vous passer votre chemise repassée, un repas, un journal, quelque chose, sans vous interrompre dans votre activité. Oui, effectivement, ça, c'est vraiment du service 5 étoiles, je dirais, hein, vraiment.
Hein. Bah, vous ouvrez l'un de vos placards, et puis dedans, vous avez ce que vous avez commandé. Et une paire de jumelles aussi, ça, c'est pas si courant.
Oui.
Ouais.
Ah, bah oui, bah,
vu la vue.
Bah, c'est ça, il faut voir la vue. Ça vous permet de regarder sur l'arbor, Victoria Arbor, donc tous ces buildings. C'est fait exprès, c'est bien étudié.
Et puis des clés, alors la clé, là, aujourd'hui on parle plus, enfin on dit clé, mais plutôt la carte de la chambre avec vos initiales. Enfin, une attention, et même un dessus de thé d'oreiller également avec vos initiales. Vous y avez dormi ici dans votre hôtel ?
J'ai eu la chance d'y dormir 3 semaines, oui, quand je suis arrivé.
3 semaines, waouh !
Oui, c'était bien. J'avais pas une chambre sur le port, mais j'ai une belle vue quand même.
Si on doit citer des personnalités qui sont passées ici, alors, bon, il y en a régulièrement, mais en principe, on ne donne pas les noms des personnes qui séjournent au moment ils séjournent. Vous reconnaissez régulièrement des personnalités connues.
Alors, dans le show business, un peu moins, mais beaucoup d'hommes d'affaires. Ah oui. Alors, des hommes d'affaires de toutes sortes. Je ne pourrais pas vous dire les noms parce que je ne me permets pas de le faire, mais on a beaucoup de gros profils dans le domaine des affaires.
Mais sinon, sont passés ici Tom Cruise, alors moi j'ai noté Kevin Costner, bon, Kate Moss, la princesse Diana a séjourné ici, Richard Nixon, Bill Clinton, George Bush, le père. J'ai vu aussi qu'il y avait un drame en 2003. Vous connaissez cette anecdote ?
Ben oui, quelqu'un a sauté d'un étage et...
Du 24e, parce que c'est plus dangereux que du premier.
Voilà, c'est ça. Et s'est suicidé, oui. Donc,
Leslie Cheung, donc acteur qu'on a vu dans Adieu ma concubine, entre autres. Ça avait dû être quand même un sacré ramdam à l'hôtel, cette tragédie. Hein.
C'est à l'époque où l'hôtel avait des balcons. Il y avait un accès sur l'extérieur. Aujourd'hui, il n'y a plus, vous avez remarqué. Mais déjà, c'était une star hongkongaise. Donc vous imaginez bien que pour l'hôtel, ça a été une sacrée catastrophe. Tous les ans, le jour de son décès...
Pour nous, c'est presque une espèce de blague, hein, parce qu'il a sauté un 1er avril. Hein.
Oui, bah, oui, effectivement, oui. Et bah, y a beaucoup de gens qui viennent se recueillir à l'endroit où il est tombé. Et donc tous les ans, c'est pareil. Donc il y a une espèce de groupement de personnes qui viennent lui rendre hommage.
Jour de mémoire pour cet acteur Leslie Cheung. La voix de Leslie Cheung. Nous sommes toujours au 23e étage du palace historique hongkongais, le mandarin oriental. Si on parle de vous, Hubert Chabot, votre histoire à vous, on rentre en France et votre histoire à vous part plutôt en Charente.
Ben c'est ça, oui, c'est ça, la Charente, donc mon pays natal. Que j'adore et donc la Charente où j'ai commencé à faire mon école hôtelière là-bas, mon école de sommellerie. Et après, je suis parti travailler dans le Périgord.
L'intérêt pour la sommellerie, quand on vient de Charente, on n'est pas totalement surpris. Hein.
On fait du vin qu'on distille, donc ça s'appelle le cognac évidemment. Donc, puis on est pas loin de Bordeaux, donc c'est une région riche en vin et spiritueux, quoi.
Mais vous avez eu alors un intérêt pour le vin, je suppose aussi le Pinot des Charentes. Je me demande si vous avez amené le vous le. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu avant vous, mais je ne sais pas. Le Pinot des Charentes au mandarin à Hong Kong, s'il y a maintenant des fans de Pinot des Charentes.
Ben oui, je l'ai ramené avec moi. Donc le cognac était déjà là. Forcément, on sait très bien que le Hong Kong était très lié au cognac pendant des années.
Et puis alors, si je me souviens bien, la clientèle asiatique, hongkongaise, chinoise. Pour eux, le vin est quand même une découverte assez récente, et il y a quelques décennies, moi je me souviens d'avoir vu des tables de Chinois ou de Hongkongais au restaurant prendre leur dîner avec des alcools forts, hein, avec du cognac ou du gin, enfin je ne sais pas, ou du whisky. Hein.
Et c'est vrai, et alors, le cognac était très 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 présent à Hong Kong pendant des années. Ce n'est qu'en 2008-2009, ils ont enlevé la taxe sur le vin à Hong Kong, et donc effectivement le vin est devenu très populaire. Donc c'est vrai qu'il y a une culture de vin plutôt jeune à Hong Kong, mais avant c'était très spiritueux et surtout cognac.
Alors vous avez eu, depuis les Charentes, vous avez étudié l'œnologie, etc., mais vous avez eu la bougeotte?
Ben oui, parce que je suis parti donc de Charentes dans le Périgord, donc c'est pas très loin, ça va, mais après du Périgord je suis parti en Suisse pendant 3 ans à peu près, et après je suis parti à Monaco.
Chez Alain Ducasse.
Chez Alain Ducasse à Monaco, effectivement. J'ai fait le Louis XV et un autre restaurant qui s'appelait le Bar & Buff, qui était au Sporting d'été. Et de là, je suis parti en Angleterre pour le Vineyard & Spa, ça s'appelle aujourd'hui. Donc, une des plus grosses cartes des vins d'Angleterre, avec plus de 2500 références de vins, 1,2 million de pounds de stock. Donc, c'était incroyable.
De livres. Hein, ouais.
De livres, c'est ça, oui. Une carte des vins incroyable. C'était un restaurant 2 étoiles Michelin. Alors, un manoir, pas un manoir, mais un manoir.
C'est ça.
Donc, oui, non, très joli. Et puis, après ces 3 ans et demi passés en Angleterre, je suis arrivé ici à Hong Kong en 2010.
Alors pourquoi Hong Kong? Hong Kong vous a choisi, vous avez choisi Hong Kong, c'était l'opportunité de travail à Hong Kong?
J'ai toujours voulu aller en Asie, j'avais plutôt visé le Japon et le Japon.
Tombé un peu à côté alors.
Je suis tombé à côté, voilà c'est ça. C'est une autre île, c'est l'île de Hong Kong. C'est une rencontre que j'ai faite en Suisse, à Genève. Il travaillait à l'époque, il était exécutif chef à Mandarin Oriental Genève, Franck Ferriguti il s'appelle. Il m'a dit, donne-moi ton CV. Je vais l'envoyer au siège du Mandarin Oriental. Merci Franck. Le Mandarin Oriental Hong Kong m'a contacté et il cherchait un chef sommelier pour l'hôtel. Et donc ça s'est fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais eu un rendez-vous avec le chef Pierre Gagnère une année auparavant. J'étais encore en Angleterre. Il m'a dit, je vous aime bien, mais j'ai rien pour vous. Une année plus tard, donc mon CV est arrivé au Mandarin, comme je l'ai dit. Et j'arrive à Hong Kong. Il me dit, ben vous voyez, on se rencontre une année plus tard, et là, on travaille ensemble.
Parce que Pierre Gagnère avait un restaurant, il n'a plus aujourd'hui, hein, c'est plus le cas. Donc le restaurant Pierre, ici, voisin du manoir au 25e étage du Mandarin.
C'est ça, ben Pierre est resté pendant 14 ans. 14 ans, 25e étage, c'est ça, juste à côté du manoir. Et on avait un très très beau restaurant, vu sur le port Victoria, avec 2 étoiles Michelin pendant 12 ans. À cet étage-là, depuis que l'hôtel existe, il y a toujours eu tous les 10 ans...
Et il y a une rotation.
Il y a une rotation, voilà, c'est ça. Tous les 10 ans, il y a une rotation. Donc avant, c'était Jean-Georges avec Vong.
Jean-Georges Vong, son nom de famille, c'est l'Alsacien, lui. Hein.
C'est un Alsacien, oui, effectivement. Ouais.
Son nom de famille, c'est Vong Henrichin, quelque chose comme ça.
Quelque chose comme ça, voilà.
Alors, c'est un chef aussi mondialement connu, mais moins en France, parce qu'il est installé à New York. Rendons son juste nom au chef Jean-Georges Vongerichten, qui possède une 50aine de restaurants dans le monde. Jean-Georges Vongerichten est né à Ilkirch-Grafenstaden, tout près de Strasbourg.
C'est ça, voilà, c'est un chef français ultra populaire, mais plus new-yorkais, je pense, dans son âme.
Il a pris le début de son nom, qui est plutôt effectivement alsacien, mais le début, ça fait plutôt asiatique. C'était une bonne idée.
C'était une fusion un peu...
C'était une cuisine fusion.
Cuisine fusion franco-chinoise, je dirais.
pense à Alain Ducasse, au début, quand vous avez commencé à travailler pour Alain Ducasse, que vous l'avez rencontré, et il vous a donné quel genre de conseils? Il vous a dit quoi, comme un peu feuille de route, Alain Ducasse?
Alors, moi, je me rappelle d'une chose que le chef m'a dit, chef Alain Ducasse, quand vous servez de l'eau, servez de l'eau. Vous ne servez pas de l'or liquide. Parce que j'étais tellement intimidé de servir chef Alain Ducasse, quand il est venu dîner dans son restaurant, que je servais de l'eau comme ça, comme de l'eau précieuse. Et il me dit, vous ne servez pas de l'eau précieuse, servez-moi de l'eau. Ok? Donc soyez confiant, n'ayez pas de timidité envers moi. Ça, je me rappellerai toujours de ces mots-là, parce que effectivement, ça m'a beaucoup apporté. Et puis parce que quand on travaille dans un hôtel comme celui-ci, le Mandarin Oriental ou le Louis XV, on a forcément beaucoup de clients qui sont très importants, qui sont des gros profils. Il faut les mettre en confiance. Il faut les mettre en confiance. Et si nous, on n'est pas confiants nous-mêmes dans notre acte de service, donc ça veut dire que on rend le client mal à l'aise.
Oui, alors c'est ça, effectivement, c'est le sommelier ou le chef sommelier qui doit mettre en confiance le client et pas le client qui doit mettre en confiance le sommelier.
Mais c'est très vrai. Et j'ai appris ça du chef Alain Ducasse, mais aussi du chef Pierre Gagnaire. Quand j'ai eu mes premières interviews avec Pierre Gagnaire, on est forcément intimidé parce que quand on est passionné de ce métier-là.
Alors, interview, je précise, c'est pas ce qu'on est en train de faire. Interview, c'est plutôt entretien d'embauche.
C'est ça, voilà, pardon. Oui, je me...
oui, non, mais c'est. En anglais, c'est la petite différence de sens.
Oui, je mélange un peu les deux, mais j'étais très intimidé par Pierre Gagnaire, forcément, parce que c'est un monument de la cuisine.
Mais là, vous avez cité Gagnaire et Ducasse. D'ailleurs, moi, je peux dire Gagnaire et Ducasse, mais vous ne diriez pas Gagnaire et Ducasse. Hein.
Non. Mais j'ai leur numéro de téléphone dans mon...
Waouh. Oui, mais vous dites le chef Gagnaire, ou le chef Ducasse, ou le chef Pierre Gagnaire, Alain Ducasse. Mais
c'est ça.
C'est pas Pierrot, et etc.
Non. Je ne me permettrai pas de les appeler comme ça. Parce non,
mais
que
je comprends que ce sont des personnalités. Enfin, dans les chefs, ça tient sur les doigts d'une main. Des plus connus au monde. Hein. Et Alain Ducasse, c'est un collectionneur d'étoiles. Hein.
Ah oui, oui. Mais attention, Pierre Gagnaire est pas loin derrière.
Oui, c'est ça, donc tous les deux.
Les deux. Non, c'est une très 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 belle expérience que j'ai vécue avec ces deux grands talents, vraiment. Ouais. They can say I'm out of town, I'm in Hong Kong. I'm just trying to get this cash in Hong Kong. I don't care about fight, I'm in Hong Kong. They can come and look for me, I'm in Hong Kong. I just went to the store and got a honey bun. My mama just called, said you got some money, son. I forgot what time is, I'm in Hong Kong. If they looking for me, tell them that I'm long gone. I be in the booth freestyling all the shit. Say where your keys go, I stole the shit. Est-ce que vous réussissez au mandarin à avoir la dotation de Romanée Conti, qu'ont les grandes tables? Pendant quelques années, j'ai eu la location, effectivement.
On dit plutôt allocation, c'est ça. C'est un mix avec des bouteilles de Romanée Conti, puis ensuite on a les crus les moins, enfin, qui sont très prestigieux aussi, mais un peu moins que la Romanée Conti. Et tous les restaurants ont un lot qui est limité en nombre de bouteilles, c'est ça?
C'est ça, effectivement. Donc il faut acheter, pour avoir une bouteille de Romanée Conti, il faut acheter les autres grands crus. Donc ça, c'est pas vraiment un problème, parce qu'on sait qu'on les vendra.
Si vous les passerez, hein. En général, tous les restaurants qui les ont les passent.
Ouais. Voilà. C'est devenu un peu plus compliqué, surtout après le Covid, parce que la Bourgogne est devenue hors de prix, et les stocks sont très 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 compliqués à avoir. Donc là, j'avoue que ça devient un challenge.
Ça se vendait combien, la carte, une bouteille de Romanée Conti, ici au Mandarin, par exemple?
La dernière que j'ai vendue, elle est partie pas loin de 15 000 euros.
15 000 euros.
Ouais.
Ce qui est raisonnable, me semble-t-il, pour une bouteille de Romanée Conti dans un restaurant, dans un palace.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que ça coûterait presque en valeur d'achat. Aujourd'hui, je la vendrais le double. Il faut qu'on refasse les stocks, mais on les refait doucement.
D'ailleurs, à propos de stock, vous stockez où? Il y a des caves ici. L'eau est en dessous aussi. Hein.
Ah ben oui, parce que là, il faut savoir que cet hôtel est construit sur ce qu'on appelle le reclaiming land. Donc,
c'est une terre qui a été gagnée.
C'est ça, effectivement, oui. La première terre, elle est sur Queen's Road, donc c'est d'ailleurs trois buildings derrière, là. Ici, on a une cave de stockage au moins un, où on stocke les vins sous air conditionné, donc c'est plutôt bien stocké, donc on est bien. Il y a un sous-sol, il y a la cave, des cuisines de préparation.
Combien de personnes travaillent ici? Donc l'équipe complète de tous les salariés d'un palace comme celui-ci, qui a 501 chambres et 67 suites?
C'est ça, effectivement, avec, comme vous disiez tout à l'heure, 11 points de vente, en incluant le banquet. Ça fait à peu près 850 employés.
Un palace, c'est un salarié par chambre, hein.
À peu près. Donc c'est 850 employés en moyenne. Ça varie par rapport aux saisons et après on fait venir quelques extras qui ne sont pas employés à temps plein mais qui viennent nous donner du support quand on a des gros événements, surtout comme un mois de novembre là maintenant.
Et pour vous, de votre part, Hubert, il y a une vraie fierté de travailler pour un établissement comme celui-ci. Donc le mandarin, je ne sais pas s'il a un surnom, le mandarin Hong Kong, il y a des hôtels qu'on surnomme. C'est le péninsula, la grande dame. Enfin, je ne sais plus, s'il n'y en a pas un qu'on surnomme la grande dame de Hong Kong.
Oui, ce sera péninsula. Et puis nous, on est la légende.
Ah, la légende.
On nous surnomme la légende, parce qu'effectivement, on est là depuis 60 ans. Et oui, c'est une fierté de travailler pour un hôtel comme ça, évidemment, parce qu'il est réputé dans le monde entier de par son nom et son existence. Et puis parce qu'on a aussi 35 hôtels aussi autour du monde qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Donc oui, c'est une fierté vraiment.
Suite de la conversation au 23e étage du Mandarin Oriental avec le chef sommelier Hubert Chabot. La difficulté, Hubert, est-elle de combiner et de trouver le bon accord mets-vin, alors non pas avec les plats de restaurants français, mais avec les plats de la cuisine asiatique, de la cuisine cantonaise, enfin des cuisines asiatiques et des plats qui sont préparés ici au Mandarin, au Manoir en particulier.
Côté accord mets-vin, avec la cuisine cantonaise, je préfère allier les blancs. Les vins blancs sont généralement plus appropriés à cette cuisine-là. Ensuite, si on parle de rouge, ce sera plutôt des rouges légers, type Pinot Noir, c'est ce que vous avez eu ce midi. Et donc, type Pinot Noir, ça va bien.
Et que j'ai bu avec modération.
Vous le dites.
Oui. Ce midi, oui.
Oui, non, sinon, c'est plutôt vin blanc, des vins blancs plutôt secs, légers, des chardonnays, des sauvignons blancs, ça va très très bien. Si on parle de la cuisine du nord de l'Asie, de la Chine spécialement, le Sichuan par exemple, là c'est plus compliqué parce que c'est une cuisine un peu plus épicée. Donc,
Sichuan, connu pour le poivre.
C'est ça, voilà, effectivement. Ça pique un peu, donc le vin s'approprie pas trop à cette cuisine-là. Donc, ils ont ce qu'ils appellent en Chine le vin jaune. C'est un alcool plutôt fort qui s'approprie plus à cette cuisine-là, en fait. Ouais.
Mais sinon, la boisson traditionnelle en mangeant ici, et c'est le cas au Manoir, ça reste le thé, non?
Ça reste le thé, effectivement. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, ça a longtemps été le cognac. On en voit encore.
En mangeant, pas en fin de repas.
En mangeant, oui, effectivement. Oui, non, mais le week-end, vous allez dans des restaurants en bord de mer, des restaurants, ce qu'on appelle les Dai Padong, qui sont des restaurants typiquement chinois, locaux. On voit des bouteilles de cognac, des magnums de cognac sur la table. Hein. Et c'est vrai que ça se marie bien avec ce type de cuisine aussi.
Des tables qui sont, moi, dans mes souvenirs, plutôt des tables de mecs, hein, d'hommes.
Ah bah oui, non, ça c'est très masculin, effectivement.
Il y avait même, à l'époque encore, il y avait le cognac sur la table et des caisses de bière au sol. C'était la caisse complète et de temps en temps, on se prenait une bière. Mais sinon, effectivement, le cognac pendant tout le repas, particularité aussi, cette clientèle chinoise à la table parle très fort.
Ah oui, c'est ça, il parle très fort. Il y a les Suzanne sur la table. Effectivement, les bières, alors oui, j'avais oublié, parce que la bière, ils s'en consomment beaucoup à Hong Kong, spécialement la Blue Girl. C'est une bière locale. Et la Qingtao, bien sûr, de Chine.
Mais vous êtes là pour séduire cette clientèle-là en proposant des vins qui passent au vin.
C'est ça.
C'est votre boulot.
C'est mon boulot. Buvez du vin.
Encore une fois, avec modération. Mais j'ai entendu une personnalité dire « Non, moi je ne dis pas avec modération, je dis avec délectation. »
Avec délectation, c'est vrai. Bah, c'est un joli mot, oui, c'est vrai. Pour le vin. Sous-titrage Société Radio-Canada.
études, on va dire un mot quand même. Vous êtes passé par l'enseignement privé, le lycée hôtelier Saint-Joseph-Lamandier, en Charente. C'est là où vous avez commencé à apprendre, alors.
Ben c'est vrai, donc c'est un lycée hôtelier qui existe toujours. J'ai fait 5 ans à peu près, oui, c'est ça. Hein. Donc 2 ans de BEP, restauration. Après 2 ans en bac pro, restaurant aussi. Et puis après, une année en sommellerie. Je remercie beaucoup Frédéric de Vautour, qui est mon prof de sommellerie. Et Chantal Prieur aussi, qui était ma prof de restaurant. Et je leur dois beaucoup parce que ils m'ont donné la passion et l'envie de faire ce métier-là.
Mais pas fait, je ne sais pas si en sommellerie, il y a des. Je pense à. J'ai rencontré quelqu'un qui est passé chez Ferrandi, je ne sais pas s'il y a une filière sommellerie chez Ferrandi, enfin, ou dans des lycées comme à Lausanne, enfin, qui sont des lycées hôteliers ou des établissements, je ne sais pas si c'est lycée ou des instituts hôteliers très prestigieux dans le monde. Vous êtes passé vraiment par une filière en partant du cursus de base, finalement, avec un BEP pour aujourd'hui être chef sommelier dans l'un des plus beaux palaces du monde. C'est quand même un cursus assez exceptionnel.
On nous a vraiment appris comment fonctionnait un restaurant. Donc je suis passé un peu en cuisine, on nous apprend à cuire quelque chose, on nous apprend à polir un verre, à nettoyer un verre, pardon. On passe vraiment par toutes les étapes. Et après, on finit en apprenant à gérer un restaurant. C'est ça le bac pro, en fait, restauration. Gérer une cuisine ou gérer un restaurant. Donc, et après la sommellerie, ben, on apprend à constituer une cave, la gérer, et puis faire un profit là-dessus, évidemment. Donc, on sort de ça avec des diplômes, mais on repart à zéro dans un restaurant, c'est ce que j'ai fait dans le Périgord, où ben, je suis parti commis sommelier, quoi. Puis après, ben, faut gravir les échelons, et puis...
Et les échelons et les étages pour arriver au 25e ici. Hein.
C'est ça, voilà. Après, je suis arrivé au 25e étage du Mandat Oriental, et puis j'y suis depuis 13 ans, donc...
Donc vous êtes bien ici à Hong Kong. Pourquoi aimez-vous tant Hong Kong? Parce que je suppose que si vous êtes resté, c'est parce que vous aimez vivre à Hong Kong.
Alors, Hong Kong, ça me rappelle un peu Londres. Il y a une espèce de dynamique autour du vin qui est incroyable. Donc, la ville est déjà très dynamique, forcément, parce que ça ne s'arrête pas de bouger. C'est jour et nuit, et du lundi au dimanche. Donc ça, c'est déjà très plaisant. La gastronomie à Hong Kong est aussi très présente, parce que les Hongkongais sont fans de nourriture, de bonne cuisine. Et le vin, bah, c'est international. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme Londres. C'est international. On trouve des choses de partout, des vins... Petit, je dirais pas petit en termes de qualité, mais en termes de tarifs, jusqu'à ce qu'on disait tout à l'heure, Romanée Conti, quoi. Et il y a tout. Et c'est ça qui est fantastique à Hong Kong, c'est qu'il y a une diversité incroyable, incroyable. Donc oui, j'adore cette ville. Et puis soyons francs, là on est à Central, si on prend un taxi, en 15 minutes, 20 minutes, on est à la plage dans le sud de l'île. Ou alors, on se retrouve 20 minutes plus tard... sur une montagne avec personne autour. Donc c'est unique.
Macao n'est pas loin. De temps en temps, je ne sais pas si vous avez passé quelques jours à Macao, pas forcément pour jouer, mais pour voir cette incroyable strip comme à Las Vegas avec les gros hôtels casinos.
Ah oui, non, bah ça, bah, moi j'aime bien quand j'ai 2-3 jours de congé. On a la chance avec Mandat Oriental de pouvoir faire ce qu'on appelle des mostés. Donc ça veut dire le personnel peut rester dans un hôtel mandarin à un tarif particulier. C'est super d'aller à Macao parce que c'est plus calme. Alors, il y a tous ces grands hôtels, effectivement. Alors moi, je n'y vais pas pour jouer, mais je vais pour m'opposer.
Sinon, vous avez un endroit qui est vraiment votre lieu préféré à Hong Kong, hormis le mandarin dans lequel vous travaillez?
Bah, là où j'habite à Soho, donc le quartier Soho, où il y a plein de restaurants, de bars. C'est très plaisant cet endroit. Et j'aime bien aussi me promener sur Lama Island. Donc c'est une petite île qui est pas loin d'ici. C'est très plaisant de faire une marche à cet endroit parce que c'est la nature, on s'y sent bien. Et non, c'est très agréable. Moi, j'aime bien Lama Island. Ouais.
Hubert, vous êtes parti pour être Hongkongais encore un certain temps ou un temps certain?
Ouais, j'ai bien l'impression, oui. C'est ma maman qui n'est pas très contente, mais bon.
Ouais, on s'arrange. Bon, elle vient vous voir de temps en temps?
Elle vient me voir de temps en temps. Enfin, je vais surtout la voir 2 fois par an ou 3 fois par an, effectivement. Ouais. Donc, ouais. Ouais. Mais oui, Hong Kong, je crois que ouais, j'y suis encore pour un petit moment, je crois.
Merci beaucoup, Hubert. Hubert Chabot, le chef sommelier du Mandarin Oriental à Hong Kong. Donc, la légende, bon, c'est déjà l'hôtel, mais un jour, on dira Hubert Chabot, la légende de la légende.
Je suis un des derniers Français ou expatriés de l'hôtel. Donc, c'est-à-dire que je suis celui qui est resté le plus longtemps dans cet hôtel.
Pierre Gagnère est parti.
Pierre Gagnère est parti. Et puis, bon, on avait notre concierge mythique, Giovanni Valenti, qui est resté lui pendant 28 ans, quelque chose comme ça. Bon, il nous a quittés malheureusement, mais c'était un des plus anciens. Donc maintenant c'est moi.
Terminons ce deuxième Suivez le Guide sur l'île de Hong Kong, sur la terrasse de l'hôtel Four Seasons. Jacques Boissier, qui importa à Hong Kong des produits d'alimentation français haut de gamme, a écrasé son cigare.
Follow the guy in Hong Kong. Suivez le Guide à Hong Kong.
De la terrasse du Four Seasons, Jacques, nous avons une vue sur la péninsule avec l'hôtel Peninsula, qui tire son nom de la péninsule, qui est très très haut, le Peninsula, qui est vraiment l'hôtel emblématique de Hong Kong, qui va fêter bientôt son premier siècle. Hein.
Oui, c'est le palace de Hong Kong traditionnel, a été gardé dans son jus. Derrière, ils ont construit une tour où il y a des chambres aussi et des bureaux.
Avec le bar en haut de la tour, le bar Philippe Stark.
Le bar, un restaurant qui s'appelle Félix, oui. Avec des toilettes qui sont visitées par tous, parce que des toilettes, on a une vision totale de la ville le soir. C'est assez magique.
Enfin,
c'est
pour les hommes surtout, et les pissotières, hein, c'est ça.
Voilà, c'est tout le monde y va. Il faut le faire une fois dans sa vie. Et puis en haut de l'immeuble, il y a un bar.
Oui, parce que précisons, donc dans ces pissotières, c'est avec vue effectivement, c'est vertigineux, mais puisque c'est contre la paroi, enfin.
Oui, tout à fait. Les toilettes sont contre le mur en verre, et donc on a une vue extraordinaire sur la ville.
Fermons la parenthèse pissotière, effectivement, mais de luxe. Hein. Et pour redire un mot sur ce Peninsula.
Alors le Peninsula a sur le toit un héliport qui est le seul héliport de Hong Kong, qui est basé sur un immeuble. Le propriétaire du Peninsula, qui est la famille Kadori, qui a beaucoup d'autres investissements, a une compagnie d'hélicoptères. Donc les hélicoptères peuvent, si on est un voyageur de luxe, emmener le voyageur de l'aéroport directement sur le toit de l'hôtel. En descendant de la plateforme d'atterrissage, il y a un bar absolument extraordinaire, qui est un bar d'aviation. On vous attend avec une casquette commémorative et une coupe de champagne. Et ce bar est vraiment superbe. Et on peut faire à partir de là des tours en hélicoptère de Hong Kong, plus ou moins longs. Le tour le plus long fait à peu près une heure, emmène à la frontière chinoise, donc on voit Shenzhen, on repasse au-dessus de l'aéroport, donc croiser un vol en hélicoptère qui croise au-dessus de l'aéroport, c'est magique parce qu'on a des avions qui décollent en dessous, donc qui se posent, et puis on va sur l'île de Lantau faire un tour autour du Grand Bouddha et faire le tour de l'île de Hong Kong. C'est absolument magique. S'il fait beau comme aujourd'hui, c'est quelque chose à faire à Hong Kong.
Inoubliable, mais il faut un budget quand même.
Non, c'est pas excessif parce que je crois que c'est de l'ordre de 800 euros pour 5 passagers. Donc c'est pas excessif comme budget. Et puis il y a des tours plus courts, d'un quart d'heure juste pour faire le tour de Hong Kong et voir tous les immeubles éclairés et la nature.
Bon, alors ça, c'est l'arrivée en hélicoptère au Peninsula. Et si je me souviens, mais après, ils ont peut-être changé de marque, mais les voitures de service du Peninsula, dans le passé, étaient des Rolls-Royce.
Alors, ils ont une quinzaine de Rolls-Royce faites spécialement pour eux, à leur couleur, le vert du Peninsula. Et si vous êtes un client du Peninsula, ils vont vous chercher à l'aéroport dans la Rolls ou vous emmener faire les courses dans la Rolls de l'hôtel.
Si on vient juste boire un verre, ben on a plaisir quand même à regarder passer les Rolls.
Absolument. Alors le lobby est connu, c'est le lobby qui est plein l'après-midi et tout le monde va pour le high tea. Les gens font la queue pour le high tea au Peninsula, donc le thé traditionnel britannique.
Avec les trois, les plateaux.
Voilà, les plateaux superposés avec des petits fours dessus.
Un cône.
Et un orchestre qui est dans ce grand lobby. Musique classique, c'est magique.
Finalement, à Hong Kong, je me rends compte qu'on utilise assez souvent ce qualificatif magique.
Il n'y en a pas d'autre, moi je ne trouve pas. Mais... Donc on va dire magique. Hong Kong est magique.
On pourrait se dire, Jacques, circuler à Hong Kong, il y a la circulation, il y a les voitures, les transports en commun. On pourrait se dire, ça doit être compliqué pour les piétons. Et en même temps, pas du tout. On pourrait presque affirmer aussi que le piéton est roi à Hong Kong.
Alors, le piéton est roi, mais pas au niveau des rues. Il y a des passages dans le ciel, il y a des passages en souterrain entre tous les immeubles, avec généralement des magasins et des restaurants en sous-sol, et on peut se déplacer d'un immeuble à l'autre comme ça. Et puis il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, qui est le tapis roulant, l'escalator, qui remonte de Central, du vieux marché de Central, en haut où les gens habitent, mid-level. C'est entouré de restaurants, de tas d'activités, et c'est un escalator, je ne sais pas, qui fait plus d'un kilomètre, par morceau, qui a été construit par des Français d'ailleurs.
Ah oui ?
Oui, il y a 25 ans, je pense, à peu près. Oui. Et ça, c'est un moyen de transport parfait, parce qu'on monte en direct, alors que les rues sont plutôt horizontales. C'est un très très bon moyen pour se déplacer et remonter vers les quartiers d'habitation.
Oui, alors effectivement, ça dépend où on se rend, bien sûr. Si on remonte, notamment quand on arrive, qu'on sort de la station de métro, ou du Star Ferry, du ferry, si on remonte vers les hauteurs de la ville, on a cet escalator, on a ces passerelles, ce qui fait qu'on traverse plein de rues, mais on ne se retrouve jamais face à un passage piéton et un feu rouge. On ne s'arrête pas. Hein.
On est au-dessus, oui. On est au-dessus de la circulation et des rues, donc il n'y a pas d'embouteillage. Là, on est en train de marcher au-dessus d'une des rues principales, des axes principaux de Hong Kong. On est en hauteur. Ce sont des trottoirs qui sont à l'équivalent de 3 étages en hauteur.
Ça représente des kilomètres de passerelles comme ça.
Oui, oui. Tout est basé là-dessus, c'est de relier les immeubles entre eux, par le haut ou par le sous-sol.
Donc c'est incroyable.
Et il y a du monde.
Et il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas si on vient faire son footing sur les passerelles. Peut-être pas pratique.
Il y a trop de monde pour faire
il y a trop de monde.
Le footing se fait dans des endroits spécialisés. Il y a des parcs pour ça, comme Victoria Park, qui a une piste pour courir. Ou vers quand on monte dans les niveaux de mid-level, il y a des routes où il n'y a pas de passage. C'est uniquement réservé aux piétons. Et là, les gens font du jogging tous les matins, tous les soirs. C'est très embouteillé le matin avant les heures de bureau. Les gens vont faire un peu de course.
C'est samedi, c'est quand même plus calme, non ?
Non, au centre-ville, non, c'est pas calme. Les gens sortent, se promènent, adorent aller faire du shopping, les malls, surtout le samedi. Le dimanche, c'est très calme en ville. Et là, le dimanche, le central, tu le verras demain, est occupé par les femmes de ménage qui ont leur journée off. Donc la principale rue de Central, Queen's Road East, est fermée. Et les femmes de ménage philippines viennent se retrouver entre copines et pique-niquer dans la rue. Absolument à voir, ça devrait.
Oui, oui.
Derrière le mandarin, c'est la rue qui est derrière le mandarin.
Exactement, mais moi je me souviens, il y a 30 ans, en gros devant, il y avait davantage d'espaces verts. Elles se regroupaient par là.
Oui, elles se regroupent un peu partout. Elles sont très nombreuses à Hong Kong et elles vivent généralement dans les appartements, dans des toutes petites pièces. Elles ont besoin d'aller respirer un peu l'air une fois par semaine et se retrouver entre elles.
Oui, à tel point que ce regroupement de ces femmes bonnes, enfin qui sont les nounous philippines, c'est devenu une attraction de Hong Kong.
Tout à fait. Les touristes, généralement, le dimanche, vont faire le tour des endroits où ils sont. Il y a de l'ambiance, elles dansent, elles chantent. C'est vraiment un endroit de vie.
Au pied de l'hôtel Mandarin Oriental et dans ce quartier du port de Victoria, un spectacle unique au monde et gratuit est proposé chaque dimanche, du milieu de la matinée à la fin d'après-midi. Des dizaines de milliers de femmes philippines se retrouvent pour manger, chanter, danser, passer la journée ensemble, préparer aussi des colis à envoyer au pays. Elles sont souvent seules à Hong Kong, séparées de leur famille, dont elles sont le support financier, notamment pour aider des parents âgés ou financer les études des enfants. Et quelle ambiance ! Les Indonésiennes, moins nombreuses, se donnent rendez-vous le dimanche dans un jardin public de l'autre côté, sur la péninsule de Kowloon. C'est la fin de ce deuxième Suivez le Guide à Hong Kong. Goy ! Grand merci Jacques Boissier et Hubert Chabot. Goy, Émilie, oui, pour le prêt de ta voix. Merci Pierre Oteza pour le contact avec Jacques et un grand Ngoy Ariel Kai et toute l'équipe du mandarin oriental Hong Kong. Les sites internet discoverhongkong.com et mandarinoriental.com.
Hong Kong in. See you soon in Hong Kong. A bientôt à Hong Kong.
Who is the superhero? Sarge? No. Rosemary, the telephone operator? No. Henry, the mild-mannered janitor?
Could be. Hong Kong Phooey, number one super guy. Hong Kong Phooey, quicker than the human eye. He's got style, a groovy smile, and a mouth that just won't stop. When the going gets rough, he's super tough with a Hong Kong Phooey chop. Number one super guy, Hong Kong Phooey, quicker than the human eye. Tick tock, 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 wow, wow, wow. Hong Kong Phooey, fan-rific.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.